Etur Jesus Christus.
Le pape François reconnaît les vertus héroïques de Robert Schumann. C'est une étape majeure vers la béatification de cet homme politique français, apôtre de la réconciliation, pionnier infatigable de l'Europe unie, ainsi que le décrivait le pape Paul VI. Tous les détails dès le début de ce journal. Une messe pour les victimes du terrorisme au Burkina Faso et dans toute l'Afrique subsaharienne. Elle a été célébrée ce matin en la basilique Saint-Pierre par le cardinal Francis Arinze, compte rendu dans cette édition. L'actualité internationale, elle, est dominée par l'Iran qui a élu son président dès le premier tour. Il s'appelle Ebrahim Raisi, ultra-conservateur. Il se présente en pourfendeur de la corruption et en champion des classes pauvres. Son portrait dans quelques minutes. Et puis nous parlerons de l'Australie qui dépose une plainte contre la Chine à l'OMC. Une guerre commerciale fait rage entre les deux pays depuis des mois sur fond de brouilles diplomatiques.
Radio Vatican, le journal, Manuela Affigi.
Bonjour à tous. Robert Schumann, reconnu vénérable, le pape a autorisé ce matin la promulgation du décret reconnaissant les vertus héroïques de ce père de l'Europe, premier président du Parlement européen, homme de foi, engagé très tôt auprès des plus démunis, de façon constante et discrète. Jean-Charles Puzolu.
Il y a un an, le 10 mai 2020, au lendemain du 70e anniversaire de la déclaration de Robert Schumann, François avait souligné l'esprit constructif de ce père de l'Europe. En plein pic de pandémie de Covid-19, le pape réactualisait la déclaration de l'alors ministre des Affaires étrangères pour qu'il puisse inspirer ceux qui ont des responsabilités au sein de l'Union européenne, appelés à affronter dans un esprit de concorde et de collaboration les conséquences sociales et économiques provoquées par la pandémie. Robert Schumann est né en 1886 au Luxembourg. Il étudie dans le Grand-Duché et rejoint assez jeune l'association Unitas des étudiants catholiques avant de se diplômer en droit en 1912. Avec des responsabilités dans le diocèse de Metz auprès des jeunes catholiques notamment, il se consacre aussi aux enfants abandonnés. Il est élu pour la première fois en 1919. Sa carrière politique lui fera traverser la 3e et la 4e République. Député, ministre, président du Conseil avec comme fil rouge l'obsession de la réconciliation. Il s'engage intensément pour la création d'un système commun de croissance économique et sociale et a largement contribué à la rédaction de la déclaration du 9 mai 1950, considérée comme l'acte fondateur de la Nouvelle Europe. Il sera élu d'ailleurs par acclamation premier président du Parlement européen le 19 mars 1958.
Jean-Charles Puzolu. Et par ailleurs, 19 autres futurs bienheureux ont été annoncés ce matin, dont 10 religieuses martyrisées par l'armée rouge entre février et mai 1945. Tout est à retrouver sur notre site vaticannews.va. On reste au Vatican où le pape François a reçu ce matin les 500 diacres permanents du diocèse de Rome, accompagnés de leurs familles. L'occasion pour le Saint-Père d'explorer avec eux la spiritualité propre à leur ministère, le service qui requiert selon lui et son essentiellement deux choses, la disponibilité intérieure et l'ouverture vers l'extérieur. Soyez humbles, leur a dit le pape, soyez de bons époux et pères de famille. Enfin, soyez des sentinelles. Là encore, tous les détails sur notre site. Je vous le disais en titre, une messe pour les victimes du terrorisme au Burkina Faso ce matin dans la basilique Saint-Pierre. Elle a été célébrée par le cardinal nigérian Francis Arinze, préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Il a invité chacun à œuvrer pour la paix. Marine Henriot.
Une célébration pour s'unir aux souffrances des peuples du Burkina Faso, de l'Afrique et du monde entier, a détaillé le cardinal Arinze, articulant son homélie autour du paragraphe 283 de l'encyclique Fratelli Tutti. Le terrorisme n'est pas dû à la religion, a-t-il répété, même si les terroristes l'instrumentalisent. Non, le terrorisme est dû à la mauvaise interprétation des textes religieux, aux politiques de faim, de pauvreté, d'injustice, d'oppression et d'arrogance. L'Évangile nous invite à œuvrer pour la paix, a continué le cardinal, et pour cela, il faut une conversion des cœurs, même ceux des terroristes. Enfin, le prélat a invité à prier pour le repos éternel des personnes assassinées par les attaques djihadistes. Elles sont 1400 depuis 2015 au Burkina Faso et 1 million de personnes déplacées.
Marie Lanriot. À une large majorité, les évêques américains réunis en assemblée plénière ont voté pour l'élaboration d'un document sur la signification de l'Eucharistie dans la vie de l'Église et sur l'importance de la communion. Plusieurs voix se sont élevées récemment pour demander que celle-ci soit refusée aux élus et hommes politiques favorables à l'avortement. La question suscite de très vifs débats au sein de l'épiscopat. Il y a quelques semaines, le Saint-Siège a exhorté à la prudence. Le texte sera débattu en novembre prochain. C'est désormais officiel. L'Iran connaît le nom de son nouveau président, Ebrahim Raisi. Âgé de 60 ans, ce religieux ultra-conservateur, chef de l'autorité judiciaire de la République islamique, a été élu avec 62% des votes dans un scrutin qui ne laissait guère de place au suspense. Olivier Bonnel nous brosse le portrait du nouvel homme fort de la République islamique.
Axant sa campagne sur la lutte contre la corruption et la réduction de la pauvreté dans son pays, Ebrahim Raisi aura été le seul candidat à mener véritablement une campagne. Une campagne jouée d'avance après la disqualification de ses principaux adversaires politiques par le Conseil des gardiens de la Révolution. Originaire de Mashhad, la grande ville de l'Est iranien, Raisi gravit les échelons au sein de la frange conservatrice du régime des Mollahs, attentif à préserver les acquis de la révolution islamique de 1979. Il suit notamment les cours de religion et de jurisprudence islamique du guide suprême, Ayatollah Khamenei, dont il va devenir l'un des proches conseillers. À tout juste 20 ans, il est nommé procureur général de Karaj, non loin de Téhéran, puis procureur général de la capitale iranienne de 1989 à 1994. 20 ans plus tard, il devient procureur général de la République islamique et en 2016, il est placé à la tête de la fondation qui gère les pèlerinages sur la tombe de l'imam Reza à Mashhad, un poste prestigieux qui le place également à la tête d'un important patrimoine industriel et immobilier. Tenant de la ligne dure, partisan de la répression des mouvements pro-démocratie et très anti-occidental, Raisi est élu après deux mandats du réformateur Hassan Rouhani. Sa tâche principale sera de rassurer un peuple iranien exsangue, frappé par une grave crise économique et sociale, mais aussi sanitaire.
Olivier Bonnel, un résultat salué par le grand ayatollah Ali Khamenei pour qui la nation iranienne a démontré qu'elle avait vaincu une fois de plus la propagande des médias mercenaires de l'ennemi. Fin de citation. Les Américains réduisent leur présence militaire au Moyen-Orient, notamment dans le domaine de la défense anti-aérienne. Ils l'avaient pourtant renforcée en 2019-2020 à cause des tensions grandissantes avec l'Iran, justement. Aujourd'hui, plusieurs équipements ont été renvoyés aux États-Unis, mais Washington n'envisage pour le moment aucun départ de soldats. L'Australie porte plainte contre la Chine auprès de l'Organisation mondiale du commerce en cause l'imposition de droits de douane par Pékin sur les vins australiens. Nouvelle tension donc entre les deux pays à couteau tiré depuis des semaines. Les causes de ces frictions diplomatiques et commerciales avec Philippe Dova.
Pékin n'avait pas du tout apprécié le refus des investissements chinois dans des secteurs jugés stratégiques par Canberra et encore moins les demandes répétées de l'Australie d'une enquête sur les origines de l'épidémie de coronavirus. Voilà pourquoi, telle la réponse du berger à la bergère, la Chine a imposé des sanctions économiques sur une série de produits australiens comme les produits agricoles, le charbon, la viande de bœuf et les vins. Une véritable catastrophe pour les producteurs de vins australiens pour lesquels la Chine était le plus important marché à l'export, mais depuis l'application des sanctions, les ventes se sont effondrés, passant de 695 millions d'euros à 12 610 000 après la hausse des droits de douane. Alors cette nouvelle étape dans la guerre commerciale entre l'Australie et son premier partenaire économique est la suite logique des avertissements du Premier ministre Scott Morrison sur la volonté de son gouvernement de répondre à tous les pays qui tenteraient de faire usage de coercition économique à son encontre. Un Premier ministre qui s'est dit par ailleurs ouvert, malgré la plainte, à une négociation directe sur les vins avec les Chinois. Une déclaration sage, car les viticulteurs australiens sont exsangues et au-delà de l'effet d'annonce, la plainte auprès de l'OMC ne devrait pas faire plier Pékin. Hong Kong, Philippe Dova pour Radio Vatican.
À Hong Kong, justement, libération sous caution refusée pour deux responsables d'un journal pro-démocratie. Ils ont été inculpés hier pour collusion avec un pays étranger en vertu de la loi sur la sécurité nationale désormais en vigueur sur le territoire. Moscou enregistre un nouveau record de contamination au Covid. Depuis quelques jours, la capitale russe constate une forte progression de l'épidémie due à la circulation du variant Delta ou indien. En plus, la vaccination en but à la défiance des moscovites avance laborieusement. Le Brésil, lui, s'approche du seuil des 500 000 morts du Covid. Dans ce contexte douloureux, la conférence épiscopale a convoqué une journée de prière et de commémoration pour toutes ses victimes. Ce samedi, une messe sera célébrée à Rio de Janeiro et à 15h, toutes les églises du pays feront sonner leurs cloches. C'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute attentive et fidèle. Et c'est la pétillante Delphine Allaire que vous retrouverez ce soir pour le journal de 18h. Je vous souhaite quant à moi une belle journée et un bon dimanche.